Vous écoutez RTL.
RTL.
La question, la voici. Peut-on vivre une grande aventure quand on a déjà 40 ans, un travail, des enfants, une vie bien pleine?
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai pris le départ d'un tour du monde à pied, par étapes. Un mois de marche par an, plein est, vers le soleil levant. Seul ou accompagné, ma longue marche se poursuit. Elle continuera peut-être ma vie durant.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous venez de l'entendre, c'est un défi magnifique que nous allons partager ce matin sur RTL. Un tour du monde à pied, entrepris il y a un peu plus de 6 ans, le 4 juillet 2010, par notre invité. Bonjour Olivier Blaise.
Bonjour.
Bienvenue dans la curiosité, vous êtes écrivain et marcheur. C'est une bonne définition, écrivain et marcheur?
Je ne sais pas dans quel ordre, mais en tout cas, les deux sont vrais.
Vous écrivez en marchant?
Non, ça, j'y arrive pas du tout alors. C'est très
d'accord.
Bizarre.
Non, c'est normal.
Pourquoi on vous a entendu dans la mise en onde d'André Facetta définir en fait votre tour du monde? Pourquoi avez-vous entrepris cette démarche?
Bah, la question, c'est surtout pourquoi je l'ai entrepris si tard, parce que je crois que j'ai toujours eu le goût de l'aventure, ça a même commencé très tôt. Enfin, je ne vais pas vous faire le récit de ma vie, mais quand j'avais 13 ans, j'ai gagné un concours et j'ai fait avec 10 autres enfants le tour d'Europe. Donc c'était un voyage artistique déjà, où on dessinait des jouets traditionnels, et ça a mis en moi une sorte de petite graine qui a germé depuis, le goût de l'aventure, du voyage, des lointains. Mais voilà, pour que vraiment mettre en pratique ces idées-là, ça a pris un peu de temps.
Pourquoi c'est important pour vous, Olivier Blaise, de faire ce tour du monde à pied, en marchant?
En fait, pour moi, la marche, c'est un moyen de locomotion tout à fait naturel. C'est plutôt la voiture qui est un mode de déplacement artificiel. Tout le monde devrait marcher tout le temps. Moi, je rêve de villes dont les voitures soient bannies et on évolue tous à pied. Je rêve d'un univers qui appartienne aux piétons, ou plutôt qui soit restitué aux gens à pied. Parce qu'on voit que dans beaucoup de pays, notamment européens, enfin d'Occident au sens large, le paysage est confisqué par l'automobile. Et ça, c'est non seulement très laid, mais c'est dommage.
Vous publiez L'Art de la marche chez Albin Michel. On y découvre évidemment les premières étapes de ce tour du monde. Et le principe, vous l'avez dit, vous avez une vie de famille. Et donc, c'est pour ça que vous avez décidé d'abord d'un tour du monde par étape. Vous marchez quoi? Un mois par an pour l'instant, c'est ça?
Voilà, je marche un mois par an, l'été généralement, et alors avec des règles très précises. Je suis très discipliné parce que c'est ce qui me permet de tenir aussi dans la durée. Donc je reprends la marche exactement, alors quand je dis exactement, c'est devant telle gare, telle cabine téléphonique, à l'endroit où j'ai suspendu mes pas l'année précédente.
Ah oui, pourquoi? Pour ne pas tricher, être sûr de ne rien rater?
Exactement, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il pleuvait à torrents, on cherchait une auberge jeunesse, on ne la trouvait pas, et une voiture s'arrête et il nous propose de monter pour nous conduire jusqu'à cette auberge jeunesse qu'on cherchait depuis bien une heure. On a dit, allez d'accord. Sauf que le lendemain, j'avais scrupule à avoir pris une voiture, donc j'ai refait le chemin à pied pour que sur la carte numérique où j'enregistre mes pas, ça soit pas en pointillé, quoi. Je tiens à ce que ça soit un trait continu du début à la fin.
Il y a une autre règle que vous mettez à votre marche et à votre tour du monde, Olivier Blaise, c'est aucun véhicule à moteur. Mais vous allez faire comment pour traverser les
océans? Sauf l'ambulance. si jamais.
Mais pour les océans, l'ambulance, c'est pas possible. Vous traversez quoi, avec des bateaux à voile?
Je devrais préciser, c'est un tour du monde à pied par étape, mais en réalité, c'est aux latitudes tempérées de l'hémisphère nord. Voilà, et seulement les terres émergées, mais ça commence à faire un peu long, donc je rentre dans les détails quand on me pose la question.
Donc vous n'allez pas traverser l'océan, ce que
non,
vous voulez
dire? Non, en plus j'ai pas du tout le pied marin, moi, je suis né à Lyon, mon père était chasseur alpin, j'appartiens aux montagnes.
Peut-être que vous marcherez sur l'eau, faut essayer.
J'essaierai, je retiens la suggestion.
C'est quoi l'équipement? Tiens, on va donner des conseils à nos auditeurs qui voudraient éventuellement peut-être pas se lancer pour un tour du monde à pied, mais en tout cas pour une première belle randonnée. Vous dites que le chapeau, c'est le plus important, pourquoi?
C'est le plus important parce que non seulement bien sûr il vous protège du soleil, des intempéries, mais il peut servir à des tas de choses. Par exemple, vous êtes devant un prunier, vous voulez manger quelques fruits, vous n'avez pas de sac sous la main, vous le mettez dans le creux du chapeau. Et j'ai même lu sur un forum de randonnée, je sais pas si c'est vrai parce que j'ai pas rencontré de chien méchant, mais que si on se trouve en face d'un bulldog excité, eh bien, si vous lui présentez le creux du chapeau, la calotte du chapeau, ça le ferait fuir, paraît-il. Parce qu'il est tellement décontenancé que voilà, il tourne les talons. Je ne sais pas si c'est vrai.
Il est lourd, votre sac? Il y a beaucoup de choses, j'imagine.
Non, mon sac n'est pas très lourd. Si on enlève la nourriture et l'eau, vous allez me dire, c'est important, mais bon, on se débrouille toujours pour en trouver. Il fait 13 kilos. Il ne faut pas que le poids du sac, le poids du sac excède 20% du poids du corps. Donc là,
il y a un sac de couchage, il y a quoi dedans?
Je suis complètement
autonome. Une trousse de toilette?
Non seulement il y a un sac de couchage, mais il y a un tapis de sol, il y a une tente, il y a même un pyjama. Mais ça, je pense que, je, pense que je vais finir par l'enlever, le pyjama.
C'est mon
petit luxe
du
soir. Voilà, c'est le luxe, quoi.
Oui, parce qu'on fait la chasse, évidemment, aux kilos superflus quand on...
Pas moi, justement. Non. Je ne suis pas du genre à scier mes brosses à dents en deux. On trouve des sites internet comme ça, de gens qui veulent voyager léger, ultra léger. Moi, je ne cherche pas de solution. Je cherche plutôt à me muscler pour porter plus lourd qu'à avoir des sacs à dos légers.
Bon, vous allez, vous allez nous raconter, Olivier Blaye, ces étapes. Et la toute première étape, depuis Pamplonne, on part donc avec vous le 4 juillet 2010, direction Lyon. Il y a 300 km de route et de chemin de randonnée qui nous attendent.
Avec RTL, cultivez votre curiosité cet été jusqu'à 12h30.
Vous écoutez RTL.
Cet été, soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Oups, attention à la marche, Thomas, on est en train de randonner là, vous avez vu, vous avez failli tomber.
Mais qu'est-ce que ce générique d'émission fait là, franchement?
C'est la mise en nom de notre réalisateur.
Il fatigue avec l'été.
C'est l'été sur RTL et dans la curiosité, on vous donne des idées pour vos week-ends ou vos vacances si vous avez la chance d'en prendre. Et ce matin, c'est un randonneur qui nous raconte son histoire, Olivier Blaye, écrivain qui s'est lancé le défi de faire le tour du monde en marchant. Un mois par an, c'est votre règle, parce que vous avez une famille, un travail. Vous repartez quand la prochaine fois?
Alors, je repars le 2 août. Je suis au bout de la Hongrie, donc je m'apprête à quitter l'Union européenne. Et devant moi, il y a l'Ukraine. Alors, ça fait un peu peur quand je parle de l'Ukraine et j'en dis, mais il y a la guerre en Ukraine. Mais c'est un très grand pays. Nous, on va passer au nord. Et les régions qui sont actuellement en feu, c'est le sud. Donc, a priori, ça devrait aller.
Bon, vous avez pu rassurer votre famille aussi. Ce tour du monde, il a débuté en juillet 2010. Vous êtes parti de Pamplonne. Vous étiez bien préparé, comme un grand sportif?
Ben, j'étais même trop bien préparé, c'est-à-dire la première étape, j'avais fait comme font souvent par exemple les pèlerins de Compostelle, j'avais fait un tableau avec tous les soirs je vais dormir là, j'avais réservé, j'avais envoyé de l'argent quand on m'en demandait pour que tout soit bien calé, et en réalité ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est-à-dire j'arrivais trop tôt par exemple, j'arrivais à 11h du matin et le refuge n'était pas ouvert, ou alors j'arrivais...
Trop tard et on avait donné votre chambre, non?
Non, mais ma place dans le dortoir c'est arrivé, oui, j'arrivais parfois en pleine nuit parce que j'avais mal estimé les distances. Donc dès la deuxième étape je me suis dit, j'ai une direction, plein est, rien d'autre. Donc je prépare rien, mais vraiment rien. J'emporte juste des cartes et puis je marche par rapport au soleil.
Vous marchez seul ?
Ça dépend des étapes. Là, sur les 7 étapes, j'en ai fait 2 seules qui n'ont pas toujours été les plus sympas. Souvent, les marcheurs aiment évoluer seuls. Ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je préfère être accompagné. Et les autres étapes, on était de 2 à 5. 5, c'est pas mal, mais on commence à être en circuit fermé parce que les gens discutent entre eux dans leur langue et donc on a moins de contact avec l'environnement.
En revanche, un de vos objectifs ? C'est rencontrer du monde, prendre, je sais pas, la température d'un pays.
Oui, mais
ça sert à ça aussi.
En fait, il n'y a pas besoin que ce soit un objectif parce que ça se fait naturellement. Il y a toujours un moment où vous avez besoin d'eau, où vous cherchez un restaurant, vous cherchez une adresse d'un endroit logé, même vous voulez poser la question sur un champ, puis-je planter ma tente. Donc le dialogue s'établit assez naturellement avec les gens qui vous entourent. On ne cherche pas la rencontre, elle se produit naturellement.
Vous parlez de l'eau, Olivier Blaye. Justement, l'un des soucis majeurs du marcheur, c'est l'eau. Il faut la trouver parce qu'évidemment, vous ne baladez pas avec un pack dans le sac à dos, quoi.
Là, je pourrais, quoi. Là, je suis en train de réfléchir si je ne vais pas renoncer, enfin, accompagner mon sac à dos d'un chariot. Vous savez, on peut porter beaucoup plus de poids, évidemment, sur un chariot. Il y a des tas de systèmes qui existent et ça permet notamment d'emporter de grandes réserves d'eau.
Parce que l'eau, vous la trouvez où sinon? Vous allez sonner chez les gens pour boire à leur robinet?
Il y a une astuce. Dans votre livre, L'art de la marche, vous donnez une astuce. C'est avec un lieu auquel on ne penserait pas forcément.
Lequel... Oui, les cimetières. Ouais. Oui, c'est un randonneur qui m'a donné ce tuyau-là qui est très bon. Parce qu'effectivement, les cimetières, il y a toujours un robinet d'eau potable pour les fleurs. Et donc, éventuellement, pour les randonneurs qui passent par là. Quoi.
Ah, c'est super.
Et choisir où dormir, est-ce que vous choisissez, tiens, d'ailleurs? Parfois, j'imagine que vous vous arrêtez là où vous pouvez.
Oui, c'est arrivé plusieurs fois. En fait, je procède comme ça, je marche en juillet ou en août, donc les journées sont quand même un peu longues, et vers 18h-19h je regarde mon environnement, à quelle distance je suis d'une ville, ou alors si je suis en rase campagne et si la ville est encore à 40 km. et je plante ma tente dans un endroit. Alors au fil, comme je dors à peu près 2 nuits sur 3 sous la tente, je commence à connaître les lieux qui sont à la fois sûrs, confortables. Il y a des critères comme ça. Il faut que ça soit plat, bien sûr. Il faut que ça soit assez distant de la route, parce que si les voitures vous voient, on ne sait jamais, on peut faire des mauvaises rencontres. Il faut que ça soit derrière un rideau d'arbres, etc., etc.
Vous est arrivé de dormir dans des lieux complètement insolites, Olivier Blaise ?
Oui, on a dormi, par exemple, notamment lorsqu'il pleut, on cherche un abri un peu plus consistant que la tente. Donc on dort, par exemple, sur des chantiers, on a dormi sous des camions, on a dormi... Sous des camions. Oui, mais les camions ont une garde au sol parfois très importante, donc ce n'est pas un problème.
La France, puisque là on est sur les premières étapes qui étaient en France, c'est un pays accueillant pour les marcheurs, puisque vous pouvez comparer avec d'autres pays d'Europe.
Partout en Europe, c'est à peu près la même chose. Bon, on est, comme je le disais en ouverture d'émission, on est d'une civilisation de l'automobile, donc les gens vous voient à travers... leur pare-brise, et c'est pas naturellement la même relation qu'avec d'autres marcheurs ou d'autres piétons. D'autant plus que c'est très différent de marcher sur des sentiers balisés, comme Compostelle. Compostelle, il y a 200 000 pèlerins qui s'aventurent en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle chaque année. Donc il y a une culture de la marche. Les gens sont habitués à recevoir, à nourrir, à abreuver les pèlerins. En revanche, quand vous marchez comme moi dans le blanc de la carte, en suivant des routes nationales, en faisant votre itinéraire sans vous soucier des chemins que vous allez emprunter, c'est plus difficile. Parfois, les gens ne comprennent pas ce que vous faites là.
Alors on va voir en quoi la marche vous a transformé, peut-être d'abord dans votre corps, et puis peut-être aussi ce que ça impacte, comment ça influe sur le moral de marcher comme ça aussi régulièrement. Ce sera juste après les infos.
Et puis comme chaque jour, on retrouvera la chronique de Stéphane Bern pour sa question de l'histoire.
Pour satisfaire votre curiosité, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 12h30 sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 12h30 sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Bienvenue aux curieuses, bienvenue aux curieux qui nous rejoignent. On est ensemble jusqu'à 12h30 pour vous raconter des histoires, pour partager des destins hors normes, pour apprendre aussi à mieux connaître notre planète et ceux qui la peuplent. Bref, ici, on se cultive dans la bonne humeur.
Notamment grâce à la question de l'histoire de Stéphane Bern. Ce sera tout à l'heure dans l'émission.
Mais tout de suite, on vous emmène pour notre tour du monde en marchant. Votre sac à dos est prêt? Alors c'est parti.
Je marche seul.
RTL.
Dans les rues qui se donnent. Et la nuit me pardonne. Je marche seul.
Oui, pas de gaz, le guide du routard dans la poche. Hare Krishna à mort, casse-toi tu peux, et marche à l'ombre.
La curiosité est un vilain défaut.
La marche des machos, qui se croient grand fort et beau, couleur au bout du rouleau.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais enfin, pour qui se prend-il? Un mélange de Superman, Bogart et Travolta?
Olivier Blaise, je rappelle que vous êtes
écrivain
et marcheur et que vous partagez les premières étapes de votre tour du monde avec nous sur RTL. Est-ce que vous marchez en musique, tiens ?
Bah, ça m'arrive quand je fais des étapes seul, oui, j'ai mon casque, parce que quand même ça fait passer le temps.
Avec Karen Cheryl dans les oreilles ?
Karen Cheryl, non, même si j'en étais amoureux quand j'étais adolescent. C'était l'une de mes idoles de teenager, voilà. Non, alors ça va des Beatles à Rachmaninoff en passant beaucoup d'électro. L'électro c'est pas mal parce
ça rythme.
Oui voilà, ça rythme. C'est très important
c'est
de pas avoir des chansons
de cœur,
trop syncopées, trop jazz tout ça parce qu'on perd le rythme de la marche. Donc l'électro c'est assez régulier, c'est des morceaux qui durent longtemps. Voilà, j'écoute R beaucoup, Daft Punk.
Vous publiez L'art de la marche, Olivier Blaise, aux éditions Albin Michel. C'est un art la marche vraiment ?
C'est un art parce que c'est une technique d'abord qui se perfectionne et puis c'est un art parce que ça couvre par exemple les relations avec les gens qui vous entourent, on acquiert une certaine expérience et on les gère différemment au fil des étapes.
C'est-à-dire qu'il y a un code de savoir-vivre, de randonneur, de marcheur ?
Oui, il y a un code de bonne conduite d'abord parce qu'on prend très vite conscience qu'on est étranger, qu'on est l'hôte, celui qui est accueilli, donc ça mérite le respect. C'est la raison pour laquelle je dis que le chapeau sert beaucoup parce qu'il sert à saluer, il sert à prendre congé. On le pose sur la table de telle ou telle façon et c'est véritablement un message qu'on délivre. Et puis aussi, il faut savoir dire merci parce qu'il y a énormément de gens qui vous aident. C'est ça qui m'a vraiment surpris. Notamment les automobilistes, ils ont pitié de ce pauvre garçon qui marche tout seul en plein soleil à midi. Donc il s'arrête et souvent il me tend de l'eau, il me tend des fruits, il me propose l'autostop, ce que je refuse.
Et vous refusez, oui évidemment, puisque le principe c'est de faire ce tour du monde en en marchant. Est-ce que vous avez subi, ou plutôt même c'est positif, bénéficié d'une transformation physique et morale avec ce, avec
voit,
ce projet, avec ce défi? Oui, vous êtes affûté. Ah ouais, ouais.
Vous ne connaissez pas.
Mais je ne vous connaissais pas il y a 6 ans ou 7 ans.
Écoutez, c'est très clair. D'une part, toutes les étapes, je perds 10 à 12 kilos. Ce qui me permet d'être bon vivant le reste de l'année. Comme c'est mon tempérament, c'est pas mal.
Je vais peut-être
régime minceur,
exemple,
idéal. Vous marchez, comme j'ai fait en Hongrie l'année dernière, 784 km. Je veux dire que vous revenez en forme. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je craignais de porter un sac à dos parce que j'avais mal au dos, comme beaucoup de grands. Et je me disais, ça va pas t'arranger.
Les petits aussi, vous savez. Hein.
Bon, mes conseils seront d'autant plus utiles.
Bienvenue au club.
D'avoir 15 à 18 kilos tous les jours pendant des étapes de 20 à 40 km, ça va pas arranger ton problème. Et c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Depuis que je marche, je consulte plus du tout, ni spécialiste, ni médecin, etc. Et je pense que ma forme générale a décuplé.
Et je vous laisse, Thomas. Je vous laisse. Je prends mon sac à dos, je vais marcher.
Ouais, ça va faire du bien. Et dans la tête, niveau moral, psychologique?
Dans la tête aussi, mais les bénéfices sont plus concentrés. C'est pendant que vous marchez, et notamment à partir d'une sorte de seuil invisible, qui sont les deux premières semaines, vous vous sentez beaucoup mieux. Et je dirais presque, sans vouloir déployer un vocabulaire trop mystique, c'est presque spirituel. C'est-à-dire, il y a un moment où on se sent en accord avec la nature, avec les gens. Moi qui suis plutôt introverti, lorsque je rentre dans les cafés, par exemple, à la fin des marches, voilà, après 3 semaines à moi, je salue tout le monde, je sympathise très vite.
Ça vous a rendu plus sociable, cette marche?
Oui, mais encore une fois, ça dure, malheureusement, ce n'est pas toute l'année. C'est pendant ce mois-là ou les 15 jours qui suivent. Et après, on retombe un peu dans le quotidien, qui pour moi est un quotidien sédentaire, quoi, d'écrivain à plein temps, qui est même un quotidien allongé puisque j'écris couché. Ça fait un vrai contraste avec la marche. J'aime pas revenir.
Ça veut dire que dans l'année, vous continuez de marcher ou pas? Mais vous allez nous répondre dans une seconde.
Pour satisfaire votre curiosité, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 12h30 sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien cet été sur RTL.
Belle matinée sur RTL, c'est la curiosité de l'été jusqu'à 12h30 et on a le plaisir de recevoir l'écrivain Olivier Blaise, l'écrivain et marcheur qui va bientôt partir pour la 8e étape de son tour du monde entamé le 4 juillet 2010 à Pamplonne. Alors vous n'êtes pas en train de vous marier, on entend la marche nuptiale, mais on se demande, Madame Blaise, elle en pense quoi de ce tour du monde que vous avez commencé en 2010?
Alors Madame Blaise, il n'y en a pas en ce moment, avis aux marcheuses.
Mais c'est joli.
Ça n'a rien à voir avec la marche, c'est pas parce que j'ai commencé de faire cette aventure-là que... Mais en revanche, je suis parti effectivement suite à une séparation et c'est très très fréquent, je sais que vous avez reçu Bernard Olivier et d'autres marcheurs, c'est très fréquent qu'on se mette en route après un moment difficile dans une vie. La marche a cet effet aussi thérapeutique.
Ça vous a sauvé la peau, vous avez l'impression?
Non, parce que j'étais pas désespéré, mais ça m'a redonné un coup de boost, oui, ça c'est certain.
Mais en revanche, vous marchez un mois par an parce que vous voulez garder le contact avec vos enfants, avec votre métier. Vous n'êtes pas parti pour un tour du monde qui aurait pu durer 5 ou 6 ans.
Beaucoup plus,
puisqu'il y a
un Québécois qui est rentré d'un tour du monde intégral effectué d'une traite, et qui est vraiment exhaustif parce qu'il a voulu fouler tous les continents. Et lui a marché 11 ans. 75 000 km, 11 ans. Ouais. Il est rentré il y a 3 ans et il a publié un livre qui raconte son aventure. Malheureusement, le livre, je pense qu'il n'est pas très intéressant. C'est quelqu'un qui est dans l'action et il n'avait pas grand-chose à écrire sur son histoire. La Nouvelle-Zélande, par exemple, qu'il a traversé du nord au sud, c'est magnifique. Ouais. J'ai séjourné 6 mois, c'est vraiment un pays splendide. Et il y consacre une page et demie pour dire qu'il a bien mangé là-bas et que l'agneau est excellent. Bon, il y a peut-être autre chose à partager.
Mais vous êtes dans cette démarche. Vous vous dites, là, c'est dommage de rester en France. Quoi. On a une terre, elle est immense, il faut que j'en explore chaque recoin, chaque pays. C'est ça le point de départ aussi?
Effectivement, pour moi la Terre c'est comme ma maison et je n'imagine pas que je pourrais la quitter sans en avoir vu la plupart des pièces en fait. Parce que je ne suis pas issu d'une famille du tout de voyageurs, ma mère n'a jamais pris l'avion par exemple. Ouais. Les vacances, lorsque j'étais enfant, je suis né à Lyon, c'était la région Rhône-Alpes et guère au-delà. En revanche, moi j'ai toujours voulu aller loin, le plus loin possible et le plus souvent possible.
Vos deux premières étapes, Olivier Blaise, se sont déroulées en France. Quelle est la première frontière que vous avez traversée? Ça doit être un moment fort, j'imagine.
Ah oui, le passage de frontière, c'est toujours extraordinaire. C'est au-dessus de Chamonix, c'est la frontière suisse, en fait, qui était matérialisée par une petite borne. D'ailleurs, c'est là qu'on s'aperçoit que les contrebandiers avaient la partie assez facile parce qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de grillage, il n'y a pas. Vous la franchissez de nuit, à mon avis, personne ne vous embête. Et c'est vrai que c'est assez magique, une frontière. Ça ne présente pas que des inconvénients. Bon, on voit aujourd'hui l'aspect politique, mais il y a aussi un aspect culturel. Il y a des frontières qui sont là depuis 300 ans. Donc, de part et d'autre, les gens ne parlent pas la même langue, les panneaux sont différents. Et tous ces petits détails créent du dépaysement. Lorsqu'on marche, on adore.
Il y a vraiment un pays qui est plus accueillant pour les marcheurs, vous avez trouvé ?
On a été spécialement bien accueillis en Slovénie. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsqu'on longeait, par exemple, des grilles de maison, les gens nous tendaient des fruits et insistaient pour qu'on les prenne, et on se chargeait de kilos et de kilos de fruits en traversant un village. C'était assez magique.
On va raconter une dernière anecdote avant de vous laisser repartir, Olivier Blaye. C'est l'histoire de ce bâton que vous trouvez derrière une auberge de jeunesse dans l'Aubrac, je crois. Vous faites des centaines de kilomètres avec lui. Vous le laissez en vous disant peut-être que je vais le retrouver l'année prochaine. Vous l'avez retrouvé ?
En fait, je voulais tester la réputation des Suisses de tout nettoyer. Et je me suis dit, je vais glisser ce bâton derrière la cabine téléphonique de la gare d'Andermatt, mais bien caché, hein, vraiment bien caché. Et on va voir, comme je reprends toujours mon tour du monde à l'endroit précis, je reviendrai devant cette cabine téléphonique l'année prochaine, on verra si le bâton est encore là. Et ben non, il avait disparu.
Est-ce qu'il vous a manqué ? Est-ce qu'il vous manque ce bâton ? Est-ce qu'il y avait un contact particulier ?
Malheureusement, je ne peux pas m'attacher à mes bâtons parce que, avec ce système d'un mois de marche par an, je reviens au point de départ en avion, en voiture. Mmh. Et lorsque c'est en avion, c'est très difficile de voyager avec un grand bâton. En cabine comme en soute, ils ne l'acceptent pas facilement. Donc je me suis résigné parce que je trouve ça beaucoup moins romantique et moins sympa. Vous savez, aux cannes télescopiques.
Ah oui.
De la marche nordique, ce qui n'est pas quand même la même chose. J'aimerais avoir un bâton où je dessinerais les drapeaux des pays que je traverse.
La route est longue
avec
encore.
Des encoches. Oui, c'est vrai, ça viendra. Je vais essayer de convaincre les compagnies.
On fait passer le message. Merci beaucoup, Olivier Blaye. Votre livre « L'art de la marche » est publié chez Albin Michel. On le conseille à ceux qui marchent et aux autres sur RTL.
Vous écoutez RTL.